La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire?
Depuis décembre 1986, depuis sa disparition et son assassinat, je n'ai pas cessé de penser à Stefan Mandelbaum chaque jour. Évidemment, au fil des ans, c'est devenu, excusez-moi de le dire ainsi, quasiment machinal. Ce n'est ni gai, ni douloureux, un peu comme on regarde le ciel. Fait-il gris? Fait-il beau? J'ai une chance incroyable. Dans ma vie, je n'ai connu à ce jour qu'un assassiné, Stéphane. Et vous? Vous en avez connu beaucoup? Combien de jeunes assassinés avez-vous connus personnellement?
Au musée juif de Belgique, jusqu'au 22 septembre, Stefan Mandelbaum, avec Pascal Aladef, Bruno Benvido, Anne Montfort, Gérard Préchoff et Antonio Moyano.
Il est vrai que je ne vis pas à Medellín, ni dans les barrios de Tijuana, ni dans aucun pays en guerre. Je ne suis qu'un banal hispano-bruxellois de 60 ans. Tant pis, ça me tord la bouche de le dire, mais je crois que la mort tragique de Stéphane fait partie, non pas de sa vie, mais de son œuvre.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélé.
Le monde invisible.
Où on avait vu ce grand portrait de Goebbels. Et c'était à la fois effrayant, hallucinant.
Stefan Mandelbaum est né en 1961 et mort en 1986. Donc c'est une trajectoire biographique très courte. Fulgurante, un peu à l'image finalement de son œuvre qui s'étale sur 10 ans seulement, mais qui est extrêmement diverse, extrêmement sulfureuse et tout à fait unique dans l'histoire de l'art aujourd'hui.
À partir de ce grand portrait qui a été acquis par le Centre Pompidou par le biais des amis du musée, on a commencé à rentrer dans cette œuvre qui est une œuvre, je dirais, déstabilisante à tous les niveaux, c'est-à-dire déjà penser que Stéphane a été obsédé par la figure de Goebbels depuis qu'il avait 17 ans, puisqu'on le retrouve dans les premiers carnets, et c'est toujours cette même photo qu'il retravaille jusqu'à la fin de sa vie. Et penser à cette attention minutieuse qu'il avait consacrée à ce portrait, c'est toute l'ambiguïté de Stéphane qui avait cet intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas un artiste qui est dans la dénonciation, c'est un artiste qui est dans la provocation.
Le musée juif se situe au 21 rue des Minimes à Mines-Bruxelles.
Arthur Rimbaud est effectivement la première des figures d'identification qui traverse son travail. C'est la première figure à laquelle il va s'identifier. Il se cherche des modèles, des artistes souvent, Arthur Rimbaud, mais aussi Pasolini ou Francis Bacon, sur laquelle il peut finalement s'inventer lui-même de nouvelles vies. Il est autant intéressé finalement par les créations, le travail artistique de ces artistes, que par leur vie sulfureuse et qui généralement se termine mal. On sait que Pasolini meurt assassiné sur une plage à Ostie, que Rimbaud termine lui aussi très jeune sa vie. C'est aussi ces trajectoires biographiques bouleversées qui vont finalement intéresser Stéphane Mandelbaum.
Et que Francis Bacon qui se suicide.
Tout à fait.
Et il y a les sorts qui sont semblables entre Pasolini et Stefan Mandelbaum, puisqu'ils furent assassinés tous les deux.
Tout à fait.
Et commissaire de l'exposition ici présent, directeur d'exposition au musée, et qui connaît mieux que personne aujourd'hui l'œuvre de Mandelbaum et l'œuvre telle que présentée ici, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste une reprise telle quelle de l'exposition présentée à Paris, mais il y a des compléments qui ont été apportés, une touche spécifique qui fait sens ici aujourd'hui à Bruxelles.
Stefan Mandelbaum.
Toutes ses œuvres, en fait, questionnent ce qu'il regarde.
Par Thierry Junico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Quelle que soit la personne qu'il va portraiturer, quelle que soit la personne auquel il va s'identifier, il a une position qui est toujours proche de l'appropriation.
Je pensais aller rencontrer une figure de quelqu'un qu'il a bien connu aussi, et qui était peut-être intime. C'est Antonio Moyano, vous le connaissez ?
Certains jours je dis oui et d'autres non, jugeant en mon fort intérieur cette opinion horriblement discutable. Vivant, terriblement vivant, Stéphane le reste à travers ses œuvres. Et dès lors, penser à lui, c'est avant tout admirer ses œuvres et les voir circuler. La circulation des œuvres étant l'énorme et monstrueux roman pur et dur de l'histoire de l'art contemporain.
Des liens de Stéphane avec Pasolini et Bacon. Je me concentre vraiment sur les références qui sont pas les références les plus immédiates, mais qui permettent vraiment de comprendre aussi son itinéraire artistique. Je pense qu'une des choses qui est très importante aussi dans Stéphane, une fois qu'on met peut-être un peu plus de côté tout ce qui est lié à sa biographie, c'est de s'apercevoir à quel point il tente aussi de révolutionner une forme esthétique à l'intérieur d'une tradition. Chose que et Bacon et Pasolini ont fait à leur manière, tout en restant d'ailleurs dans des formes traditionnelles, parce que Pasolini, lui, se réfère à l'art de la Renaissance, et Bacon s'est toujours référé à la grande tradition picturale, mais en la modifiant par le contenu aussi, c'est-à-dire en ouvrant une brèche à l'intérieur de l'œuvre par les sujets qu'il aborde, et par la manière de les aborder, bien évidemment.
Je vous laisse imaginer ma joie quand j'ai pris le train vers Paris pour aller voir Stéphane Mandelbaum au Centre Beaubourg. Comme tant et tant d'autres, moi aussi, j'attendais cette expo avec impatience. La reconnaissance tant attendue était enfin venue. Et la consécration symbolisant aussi « Stéphane ne nous appartient plus, il ne nous a jamais appartenu. Il a émigré, non, il est mort, et le voici expatrié ou en partance vers d'autres cieux ou de nouveaux horizons. » J'en étais fier et heureux.
On a toujours le problème de la lecture a posteriori, c'est-à-dire qu'on sait comment est mort Stéphane. Donc, vu ses conditions de mort tragique, et on sait qu'il était passionné, mais comme beaucoup d'adolescents aussi, par les destins qui sont des destins héroïques et tragiques, il se passionnait aussi pour Rimbaud, qui n'est pas mort de la même façon. Pour moi, ce qui le passionne dans des gens comme Pasolini, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'il a ce même côté borderline que ce qu'on peut avoir chez Stéphane. Entre l'histoire, en fait, la vie que se crée Pasolini, c'est le destin qu'il finit par avoir. Comme Stéphane s'invente une vie qu'il finit par vivre. C'est cette manière de s'incarner peu à peu dans une fiction qui peut être plus intéressante. Enfin, pour moi. Depuis le départ, quand j'ai commencé à travailler sur Stéphane, ce qui m'ennuyait beaucoup, c'était cette façon de toujours le ramener à quelque chose qu'il a subi et pas à quelque chose qui faisait partie de ce qu'il faisait.
Anne Montfort.
C'est là souvent où j'ai un peu plus de mal quand on me parle de sa fin tragique, qui, c'est vrai, est plus maintenant de l'ordre du roman ou de la fiction, comme tout fait divers.
Donc, effectivement, cette exposition raconte finalement les vies réelles et vies fictives de Stéphane Mandelbaum à travers une centaine d'œuvres, principalement des dessins. On a également voulu rajouter, en tant que musée juif de Belgique, certaines des peintures, des œuvres de jeunesse, également des œuvres plus tardives où il raconte finalement sa vie dans les mondes interlopes de Matongé à Bruxelles.
Anne Montfort. Qu'est-ce qui attire Stéphane Mandelbaum, Arthur?
Je pense qu'il y a plein de choses.
L'exposition commence par une série d'autoportraits, une quête initiatique. On a un jeune homme qui se peint alors qu'il est âgé de 15 ans, pendu à un crochet de boucher, le sexe mutilé. C'est la première œuvre que l'on connaît de Stéphane Mandelbaum. Et finalement, d'une certaine manière, tout est déjà dit. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui va placer ses interrogations, ses doutes, son identité blessée au cœur de son travail.
Rimbaud était un poète qu'on aime beaucoup. Puis il y a l'identification qui me semble assez évidente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, qui a une immense facilité. Rimbaud, très vite, possède les moyens que d'autres poètes vont s'acharner à avoir dans le long terme. Et comme Pasolini, et d'ailleurs comme Bacon, ce que Rimbaud propose, c'est de révolutionner cet art poétique, à révolutionner de l'intérieur cet art poétique. Et une fois qu'il est arrivé à ces attaques du Parnasse, Rimbaud, il choisit très vite de quitter l'art pour avoir une vie d'aventure réelle, parce qu'il a déjà épuisé ce qu'il pouvait faire.
On va avoir un artiste qui va commencer à s'interroger en traitant de la question de la transmission de l'identité, en commençant par faire des portraits de son père, de son grand-père. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un virtuose, un génie du dessin, mais qui en même temps va faire un travail sur les marges, notamment avec des insultes, des inscriptions yiddish, des collages d'images pornographiques qui vont finalement corrompre son propre dessin. Donc on a un ensemble de compositions extrêmement originales où la marge prend de plus en plus d'importance et où finalement le vide chez Stefan Mandelbaum devient une forme, parfois la forme principale de son travail.
Question récurrente, Gérard Préchoff, pourquoi cette exposition à Beaubourg aujourd'hui ?
Je me posais d'ailleurs la question, il a fallu attendre pratiquement 40 ans entre la dernière grande expo, qui est en même temps en fait la première au Botanique en 1988, qui était une splendide exposition, qui était plus une exposition rétrospective, où il y avait à la fois les dessins, les peintures, les gravures. Donc il y avait cette expo-là, et puis finalement, bon, on s'aperçoit que les expos, en fait, ça tourne de 20 ans en 20 ans. Hein. On se dit, tiens, mais j'ai déjà vu Manet, Monet, Van Gogh. Hein. Mais en fait, c'est le temps d'une génération. Et ici, finalement, c'est comme si une génération avait été privée de voir Stéphane. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Aujourd'hui, il y a eu deux expositions, l'une à Beaubourg, l'autre à Bruxelles. Partons de là.
On parlait des figures d'identification. Donc il y a évidemment son père qui est peintre lui aussi, et avec lequel s'engage une sorte de mano à mano. On sait que les premières œuvres de Stefan Mandelbaum sont extrêmement influencées par le travail de son père Arié Mandelbaum, qui est un peintre reconnu, professeur d'art également. Mais il va très vite se dégager finalement de tout académisme, Stefan Mandelbaum, et proposer une esthétique post-expressionniste dans laquelle finalement les registres vont se mélanger. On a du dessin virtuose, on a des collages, on a des écritures à la marge, on a finalement quelque chose qui transcende les différents genres et qui à ce titre-là apparaît aujourd'hui encore comme étrangement contemporain.
Moi je n'ai jamais douté qu'un jour, bon...
Oui, car vous êtes l'auteur d'un film qui lui est consacré.
Oui, un film qui remonte déjà à 93. Bon, disons, j'ai une place particulière vu la proximité que j'avais avec Stéphane, puisqu'on a partagé le même immeuble les deux dernières années de sa vie. Donc on se voyait quasi quotidiennement entre 84 et 86, c'est-à-dire à la date de son assassinat.
Je me souviens. Stéphane a besoin d'un grand rouleau de papier. Ni lui ni moi n'avons de voiture. Il existait alors un fournisseur de matériel pour artistes, rue Limnander, du côté gare du Midi Anderlecht, dans le quartier dit du Triangle. Et nous voilà tous deux traversant la salle des pas perdus de la gare du Midi, allant de la rue de France à l'avenue Foncenis et vice-versa, transportant sur nos épaules le grand rouleau de papier jusqu'à son atelier à Part, 17 rue Van der Schrick.
Il y a un côté journal intime. Bon, il faut évidemment décrypter ce qui est fantasmatique, c'est-à-dire la majorité des choses, de mythomanie ou d'amusement, simplement. Parce qu'il y a ça aussi chez Stéphane. Il y a un côté potache et...
Je me souviens avoir visité en sa compagnie deux expos le même jour à Beaubourg. Marc Chagall, œuvre sur papier, et la rétrospective Willem de Koning. C'était en 1984. « Colle ton nez dessus, c'est bien plus intéressant », dit-il, regardant Chagall.
C'est-à-dire le film qu'on peut interpréter aujourd'hui, parce qu'il a été fait relativement peu de temps après la mort de Stéphane. Donc Stéphane est enterré en 87, Et le film est de 93, disons que c'est un film de deuil. Qu'on apprécie ou pas mon approche, le film est en même temps un archivage qu'on n'aura plus jamais. Parce que j'ai pu réunir à ce moment-là encore des œuvres dont certaines, on ne sait même plus où elles sont. Et donc, qu'on apprécie ou non mon approche, on découvre immanquablement l'œuvre de Stéphane pour qui ne la connaîtrait pas. Parce que il y a des dizaines d'œuvres qui sont dans le film, et c'est en même temps les A4 qui servent de déclencheur, de thématisation, disons, qui fait avancer le film. Un peu comme l'auteur par lui-même, hein, c'est Stéphane par lui-même, d'une certaine façon.
Je me souviens qu'il me fait cadeau de deux dessins obliques que j'ai précieusement conservés loin de toute lumière, dans un grand carton venant d'un emballage de frigidaire. Les voyant, Bruno Jean dira « On dirait qu'ils ont été faits hier, tant l'encre bleue du bic était encore brillante et bleue. »
Si à un moment donné, il s'est arrêté de dessiner dans la perspective d'exposition, parce que ça ne l'intéressait plus, de certaine façon, parce que la jouissance venait d'ailleurs, mais en fait, il n'a jamais arrêté de dessiner au sens gestuel, au sens pulsionnel. Et ça, c'était merveilleux, magnifique, en plus pour moi. Donc en 84-86, c'est les années où démarre Art en Marge. Donc la première galerie d'art brut en Belgique, une galerie publique, à l'initiative de Françoise Henrion, veuve elle-même d'un sculpteur fameux, ami de la famille Mandelbaum. Enfin, tout ça se tient, on est à Bruxelles, dans le petit milieu marginal, disons artistique au marginal.
Et puis ce que vous ne dites pas, mais qui est quand même important à mes yeux, c'est que vous animez une revue.
Une revue, oui. Oui.
Dans laquelle...
Stéphane sera publié plusieurs fois. Effectivement, vous faites bien de le relever, parce qu'il y a à la fois notre proximité, on est dans le même immeuble, on se voit pratiquement tous les jours, mais il y a aussi le fait que je commence à m'intéresser à l'art brut. En fait, je n'y connaissais rien au départ. Quand j'ai été sollicité pour collaborer à la fondation de cette galerie, je me suis précipité sur Dubuffet, Thévaux, Prinzhorn, Morgenthaler, enfin tous les classiques de l'art brut. Et en même temps, parallèlement, effectivement, je faisais une revue avec Antonio Moyano, revue corrigée, où dès que j'ai pu, j'ai vérifié en fait récemment, il y a 3 numéros, donc les 3 derniers numéros, où chaque fois que j'ai pu, Stéphane était publié. Il y a des dessins qui se retrouvent dans les deux expositions, mais il y a aussi une tentative, je dirais, de traduction du yiddish d'un poète qui s'appelle Pérez Markish, qui est un des grands poètes modernistes yiddish, liquidé par Staline, dont Stéphane a fait un superbe portrait au Bic, et en même temps une tentative de traduction d'un poème.
Je me souviens avoir déchiré un dessin de Stéphane qu'il avait réalisé devant moi de façon instantanée alors qu'il m'expliquait sa passion des armes à feu, comment on démonte et remonte un revolver.
En fait, cette production-là, alors qu'il avait le plus grand mal à poursuivre des expositions, en fait, c'était bien la preuve que c'est quelqu'un qui dessinait comme il respirait, en fait. Il n'arrêtait pas. Comme on est à l'œuvre maintenant en train de parler, lui, il griffonnait pendant ce temps-là, non-stop. Et souvent, c'est des choses qu'elle a à la poubelle. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte, moi qui travaillais sur l'art brut, je me dis, mais j'ai un gars là juste à côté de chez moi qui... Donc, je lui ai dit, Stéphane, écoute, ça m'intéresse ce que tu fais. Et donc, il venait régulièrement me déposer des petits paquets de feuilles. En fait, il les répartissait entre Georges Meurant et moi. Et je me suis rendu compte par la suite que cette manière de faire, en fait, elle n'a jamais cessé depuis sa petite enfance. Et ce qui est fantastique, c'est les mêmes traits basiques, des traits matriciels. Donc au bic, au crayon, enfin n'importe quel support. Et on pourrait dire que finalement, jusqu'au plus grand dessin, hein, plus grand que grandeur nature, tous ces visages et ces figures, ou ces postures, en fait, c'est comme s'il dépliait ces glyphes matriciels.
Si j'ai déchiré ce dessin, acte stupide, s'il en est, c'était dans le fol espoir que la chose inévitable, ne devienne réalité. Disons, geste vaudou ou d'exorcisme des plus bêtes et d'efficacité nulle, vous en conviendrez.
Ici, c'est la maîtrise qui nous emprisonne, à la fois pour notre propre jouissance et à la fois pour notre malaise. Donc ça, c'est fantastique.
En fait, je pense qu'à un moment donné, pour Rimbaud, ce qu'il avait à dire, il dit. Et il fait autre chose.
Anne Montfort.
Longtemps, dans l'imaginaire occidental, l'Afrique, c'est l'évasion suprême. C'est le retour vers un monde inconnu. C'est le retour vers une forme de vie plus libre, surtout, plus vierge aussi.
Bruno Benvido.
L'usage du bic, c'est cette urgence. Cette urgence qu'on sent chez lui. Donc on sait il a peint, il a également réalisé des gravures. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'aller très vite. Et le bic ou le crayon permettent également à la fois de dessiner et de faire ce travail d'écriture dans les marges qui va prendre toujours plus de place dans son œuvre.
Ce qui est assez étonnant chez Stéphane, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il calque sa vie sur d'autres destinées.
Mais également Pierre Colman. Pierre Colman, évidemment, figure un petit peu oubliée aujourd'hui, mais essentielle à ses yeux. C'est en fait son père, Harry Mandelbaum, qui l'initie à l'œuvre de Pierre Colman, dans le sens où il lui offre les fameux souvenirs d'un juif polonais né en France. Et Stéphane va tout de suite s'identifier à cette figure qui, elle aussi, va, comme Stéphane Mandelbaum, s'approcher très dangereusement du monde du banditisme, de la violence, etc. Pierre Colman, c'est également un destin qui termine mal. Et Stéphane Mandelbaum va également se rapprocher de cette figure par la question du judaïsme. C'est-à-dire que Stéphane Mandelbaum questionne son judaïsme à travers sa famille, l'histoire de son grand-père, seul survivant du judéocide, et qui lui transmet un amour du yiddish et en fait une culture juive. Mais ce qui intéresse Stéphane Mandelbaum chez Pierre Colman, c'est une sorte d'affirmation identitaire comme volonté de revanche historique. C'est-à-dire que la violence qu'on retrouve aussi bien chez un Mandelbaum que chez un Pierre Colman est une manière finalement de vaincre la culpabilité pour cette génération d'après qui n'a pas fait la guerre, la culpabilité de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pu prendre les armes. Et bien là, on a deux artistes qui vont faire montre d'une violence, parfois aussi d'une hyper-virilité, qui est en fait une sorte de renversement du stigmate, une identité juive positive, affirmée, revendicatrice, qui finalement va le mener également à sa perte.
On peut penser aussi à Pierre Colman finalement.
Un enfant d'un couple de résistants juifs, les deux, le père et la mère, et qui lui-même a vécu à la marge dans les années 70. Donc Pierre Colman a été accusé d'avoir braqué une pharmacie boulevard Richard Lenoir à Paris, accusé d'avoir tué les deux pharmaciennes. Il y a eu un premier procès où il a été condamné.
Gérard Prechtchov.
Et puis il a écrit un livre qui est un livre culte qui s'appelle « Portrait d'un juif polonais né en France », qui est une autobiographie qui est magnifique, où on trouve évidemment, si on relit aujourd'hui à la lumière de Stéphane, pas mal d'accointances. Par exemple, Le Monde, Stéphane était assez connaissait bien, puisque son épouse était zaéroise, connaissait assez bien le monde zaérois, comme on disait à l'époque, de Bruxelles, le quartier Matongé, qu'il fréquentait avec sa femme. Et quant à Pierre Colman, lui était plutôt avec les Guadeloupéens, enfin aussi le côté exotique et en même temps ce côté marginal et cette fascination pour la violence. Et donc il se fait que Pierre Colman a d'abord été condamné, puis il a été libéré par un deuxième procès où vraiment le tout Paris est venu témoigner, Yves Montand, Simone Signoret, Sartre, enfin le gratin, tout le monde est venu. Non, Sartre, je suis moins certain. Et il se fait que quelques années après avoir été libéré, en 1979, et plus exactement, parce que je m'en souviens très bien, en septembre 1979, il a été assassiné par un groupe qui a revendiqué sous le nom de Honneur de la police. On n'a jamais trouvé en tout cas les meurtriers. Et donc ce Pierre Colman, c'est une figure, disons, plus contemporaine, qui s'est ajoutée aux autres figures tutélaires que vénérait Stéphane, hein, Rimbaud, Pasolini, Bacon, plus le père, évidemment, et le grand-père. Hein, il y a l'aspect, dans ces figures tutélaires, il y a le côté de la généalogie familiale, sans la mère, même si beaucoup de dessins sont dédicacés ou dédiés à sa maman, comme il l'écrit, mais elle n'est pas représentée, pas que je sache. Par contre, il y a des portraits de son père et de nombreux portraits alors de son grand-père qu'il vénérait.
Alors, il faut quand même faire une abstraction qui me semble assez importante parce que l'engagement politique de Stéphane n'est pas le même que celui de Pierre Colman. Mais l'un et l'autre ont une destinée où d'intellectuel on passe à l'action, de l'action à la violence, avec une volonté de se construire en même temps. C'est-à-dire que cette violence fait partie de la manière de se construire. Ce qui m'avait le plus saisi, en fait, dans les citations que choisissait Stéphane dans l'ouvrage de Pierre Colman, c'est qu'il ne choisissait que des citations D'abord qu'il extrayait du contexte, qu'il recomposait, parce qu'en général il fait des phrases valises où il rajoute une phrase, un autre passage du livre. Et c'était exclusivement des choses qui étaient sur la construction de son identité juive. Ce qu'il voyait chez Goldman, ce qui l'intéressait le plus, c'est cette façon de finalement finir par se reconnaître dans un autre, finir de trouver dans quelqu'un qui vous est complètement inconnu, quelque chose qui vous rappelle quelque chose d'autre. Peut-être que c'est ça aussi Stéphane, c'est-à-dire dans toutes ces figures qu'il va choisir, que ce soit Rimbaud, que ce soit Bacon, que ce soit Pasolini, ce sont chaque fois un autre dans lequel il se reconnaît.
Au musée juif de Belgique, jusqu'au 22 septembre, Stéphane Mandelbaum, avec Pascal Aladef, Bruno Benvido, Anne Montfort, Gérard Préchoff et Antonio Moyano. Le musée juif se situe au 21 rue des Minimes à Mines-Bruxelles.
Bruno Benvido, et je suis directeur des expositions au musée juif de Belgique et commissaire de cette exposition à Bruxelles.
Et à vous écouter et en évoquant la figure de Pierre Goldman, je songe à l'œuvre théâtrale d'un René Kalinski.
Tout à fait. Ces années 70 et 80, qui sont ce qu'on pourrait, enfin ce qu'une historienne française a appelé l'ère des témoins. C'est le moment, en fait, où cette génération des enfants de la Shoah veut interroger les victimes, ou les montrer, ou les raconter, mais également les bourreaux. Et c'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre qu'un Stefan Mandelbaum va peindre des magnifiques Goebbels ou des Ernst Röhm. Il peint des nazis à partir de ses 17 ans. Il est fasciné par ces figures de répulsion, ces figures haïssables, exactement comme un Claude Lanzmann, quelques années plus tard, va donner aussi la parole aux bourreaux dans son fameux Shoah. Donc quelque part, Stefan Mandelbaum, dans cette génération, veut revenir sur cette guerre, s'insurge contre le fait qu'on puisse oublier la Shoah. Il s'inscrit dans cette génération du souvenir, et c'est finalement là son discours le plus politique. C'est quelqu'un, Stefan Mandelbaum, qui est à distance des questions politiques des années 80, mais quand il s'agit de la Shoah, quand il s'agit de son identité, quand il s'agit de son héritage, là, un discours politique se fait jour.
Antonio Moyano.
Tous les écrits concernant Stéphane et son œuvre me passionnent. J'adore les textes de Anne Montfort et Shogakar Kazarian dans le catalogue. Celui d'Anne Lemonnier, note sur les sources des dessins, excellent outil pédagogique pour les élèves et professeurs désirant visiter l'exposition. Et bien sûr le texte de Gérard Préchoff parlant de la spécificité des A4. Chaque fois que je vois son film « La sainteté Stéphane », j'en sors bouleversé. Et tous les courts-métrages qui sont venus par la suite, et tous les livres « Tête d'homme » de Jérôme Michaud-Larivière, paru en 1993, le roman « Épreuve d'artiste » de Yves Wellens, paru en 2012, Mandelbaum ou « Le rêve d'Auschwitz » de Gilles Seban, paru en 2014 sous Impression Nouvelle, et qui va être réédité. Tous, absolument tous, m'ont appris des choses et m'ont fait voir l'œuvre de Stéphane mieux et autrement. Ces textes, ces livres écrits par des hommes et des femmes n'ayant pas connu Stéphane, m'ont beaucoup appris. Et à chaque exposition de Stéphane Mandelbaum, je découvre de nouvelles œuvres dont j'ignorais même l'existence. Si tout homme est un mystère, alors que dire de Stéphane Mandelbaum ?
Anne Montfort.
On n'a jamais très bien su, en fait, comment il continue à travailler la dernière année. Il y a moins d'œuvres, ça c'est sûr. Il n'a pas choisi le destiné qu'il a eu, enfin... Il l'a vécu, peut-être. C'est difficile de dire qu'il l'a choisi. Mais il est quand même mort très jeune. Il est mort à 25 ans. On ne sait pas comment il aurait évolué après. D'ailleurs, tout ça, c'est des conjonctures qui ont peu d'intérêt.
J'ai pu assister à la préparation de deux expositions. L'une à Furnes, chez Hugo Godoris, et l'autre à Bruxelles, chez Christine Coleman. Chez Christine Coleman, d'ailleurs, il avait transformé la vitrine en vitrine de bordel. En 4-5 semaines, il s'enfermait chez lui, littéralement. Et il travaillait non-stop. Souvent, il faisait quelques petites esquisses sous forme d'A4. des trucs rapidos dont lui savait à quoi chaque figure, chaque petit carré renvoyait. Et il se mettait au boulot et en 4-5 semaines, c'était fait.
Le rapport principal pour moi entre Rimbaud et Stéphane, c'est cette fulgurance. C'est-à-dire que très vite, cette facilité à la fois pour dominer un moyen d'expression, pour vouloir le dynamiter, pour en faire quelque chose d'autre, et au bout d'un moment, cette espèce de lassitude aussi, parce que quelquefois, dans les dessins de Stéphane, on perçoit cette lassitude.
Il ne faut jamais oublier, quand on voit un dessin de Stéphane, il avait maximum 25 ans. Il faut chaque fois un peu se remettre, et se recadrer, et refaire le poids sur soi-même, parce que la plupart des choses, c'est autour de 18 ans. Donc c'est dingue, c'est littéralement dingue. Mais c'est dingue comme Rimbaud, c'est dingue, voilà. Ça, il faut jamais oublier.
Gérard Prechtchov.
Il y avait une renommée fatalement, puisque la famille aussi est une famille d'artistes. C'est un milieu bruxellois. Il y a le SNARC qui était un peu le, à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque était un peu le Semeril, l'école alternative pour un public alternatif lui-même. Donc ça circulait bien. Il avait sa petite réputation dans ce milieu. Et puis il a quand même, c'est quelqu'un qui était à la CAQ quand même, notamment à Boisfort, où il a eu les collages avec un gars qui était assez connu à l'époque, qui s'appelle Lucien Bratt, dont j'ai vu des œuvres figuratives, notamment autour de la bande à Bonneau. Il y a une filiation claire entre ce prof et Stéphane.
Je crois savoir que le camp d'Auschwitz est représenté.
Alors, il y a une œuvre, je vais dire presque mythique, pour les amateurs de l'œuvre de Stéphane Mandelbaum, qui s'appelle « Rêve d'Auschwitz », où une scène très explicitement sexuelle est accolée à l'entrée fameuse du camp d'Auschwitz. Et c'est toute la manière dont Stéphane Mandelbaum va en fait dénoncer deux tabous. Deux tabous qui étaient ceux qui avaient traversé la génération de ses parents, la génération d'avant, et auxquels Stéphane Mandelbaum veut s'attaquer résolument. Le premier de ces tabous, c'est le tabou de la Shoah. Finalement, quand on parlait du judéocide dans certaines familles juives, les enfants étaient priés de quitter la table. On n'en parlait pas à la table de la cuisine pendant les repas, etc. Stéphane Mandelbaum se révolte contre ça et il le fait à l'aide d'un autre tabou, le tabou sexuel, la pornographie. Et c'est finalement comme ça qu'on se retrouve avec des portraits de dignitaires nazis accolés à des sexes masculins en érection. La pornographie et le nazisme sont deux tabous de la génération qui précède Stéphane Mandelbaum et auquel il a décidé de mettre un terme.
Par exemple, à l'expo de Christine Coleman, où il avait exposé des grands dessins, je crois qu'il n'a rien vendu. Je lui avais rendu en fait des dessins qu'il m'avait donnés pour Revue Corrigée, en lui disant peut-être que ça, tu vas pouvoir les vendre. Effectivement, ça qui était beaucoup plus abordable, quoique le reste n'était pas très cher. Donc effectivement, il en a vendu. Et ce qui est chouette, c'est que c'est des amis, pas mal, dont Paul Trashman, que j'ai rencontré d'ailleurs par Stéphane, qui ont acheté. Et donc c'est grâce à ça, on peut encore les voir aujourd'hui. Ils n'ont pas échappé.
La dyslexie, c'était aussi peut-être ce qui explique sa manière de dessiner. C'est aussi une forme d'écriture, le dessin. Je pense que dans ses dessins, d'ailleurs, l'écriture est omniprésente. Elle est omniprésente dans les annotations, elle est omniprésente dans les marges, elle est omniprésente dans les lettres calligraphiées. L'important n'est pas tant de ce qui est écrit, parce que finalement, on se rend compte dans ce qui est écrit, c'est un amalgame, c'est à peu près comme s'il mettait à un moment donné une photographie à l'instant T de ce qui lui passe dans l'esprit. Pour prendre un exemple simple d'ailleurs, son portrait de Rimbaud qui est présenté en ce moment, la tête de Rimbaud émerge d'un amas de textes, et dans cet amas de textes, on va de l'insulte à l'annotation qui est liée à ce qu'il va faire dans la journée. C'est vraiment comme si on pouvait à un moment donné photographier tout ce qui nous passe par la tête à un moment T.
D'après mon souvenir, Gérard Prechtchov tourne un film sur Stéphane Mandelbaum où les premiers plans indiquent le nombre de jeunes qui se suicident ou se tuent. Vous avez vu ce film ?
Alors, Gérard Prechtchov, qui est un proche de Stéphane Mandelbaum. Ils vont partager le même immeuble à Saint-Gilles à une époque. C'est Gérard Pressoff qui va également accumuler un certain nombre de dessins que Stéphane appelait des scrabouchas. C'était des dessins très quotidiens, très rapides qu'il faisait et que le musée juif a tenu à exposer dans cette exposition. Ils n'étaient pas présents à Paris. Gérard Pressoff réalise en 1993 un film bouleversant qui s'appelle La Santé Stéphane, qui est en fait un témoignage de deuil. Stéphane est mort en 1986, on est 6 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, et on est clairement dans un témoignage intime où on voit effectivement notamment le frère de Stéphane Mandelbaum raconter cette époque de la fin des années 70 et le début des années 80 et ce milieu qui va finalement chercher les limites en permanence, que ça soit la toxicomanie pour certains, ou que ça soit comme c'est le cas pour Stéphane, le grand banditisme, les mondes interlopes, en particulier à Matongé. Il va fréquenter des proxénètes, il va fréquenter des escrocs, il va fréquenter des prostituées. C'est ce qu'il raconte également dans son œuvre, en dessin. Donc c'est une œuvre qui est à la fois juive et à la fois bruxelloise, ancrée dans l'histoire belge.
Ses rapports avec le cinéma, par exemple, parlent aussi beaucoup de cette génération. Je me souviens que c'est quand même le moment où, grâce à la vidéo qu'on a eu tendance à oublier, beaucoup de films ont ressurgi. Avec un vidéoclub, on avait la possibilité d'aller voir des films qu'on ne voyait pas auparavant. Le rapport avec le cinéma dans les années 80 est vraiment une référence, pour beaucoup d'entre nous, qui était là où on s'éduquait aussi bien esthétiquement que politiquement.
Dès ses 17 ans,
Bruno Benvenuto,
Stéphane Mandelbaum va griffonner, dessiner, peindre des nazis. Pour lui, c'est évidemment une manière de convoquer son héritage juif de la manière la plus effrontée, la plus provocante qui soit, en finalement allant voir du côté des bourreaux. Ce qui l'anime, c'est qu'on ne parle pas assez ou qu'on parle mal de la Shoah à son époque, et il a décidé finalement de mettre le fer directement dans la plaie. Ce grand portrait de Goebbels est intéressant mais également profondément perturbant par sa scrupuleuse précision. Il n'y a aucune déformation du dignitaire nazi, qui est au contraire peint avec une précision absolument méthodique. Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est ce halo, cette fumée blanche qui sort de sa bouche. C'est en fait un accident tout bête. Quand Stéphane, qui à cette époque-là était encore étudiant à l'Académie d'art d'Uccle, a exposé dans un couloir cette œuvre, il y a un autre élève qui est passé et qui a inscrit un autre message sortant de la bouche de Goebbels. Stéphane, lui, a utilisé finalement cet accident pour l'intégrer dans son œuvre et finalement en détourner le sens. On a aujourd'hui ce magnifique portrait, évidemment à la marge ces inscriptions, certaines en yiddish, on a également des insultes dans son style désormais caractéristique, mais on a également ce correcteur blanc, ce typex qui sort de la bouche de Goebbels et qui change totalement la signification de l'œuvre.
Que voyez-vous dans ces typex?
Certains y ont vu les fumées des camps de concentration ou des camps d'extermination. D'autres y ont vu le silence de ces paroles mortifères. Je pense que c'est évidemment aux visiteurs de l'exposition de se faire leur propre opinion. Une des grandes caractéristiques de l'œuvre de Stéphane Mandelbaum, c'est de jouer sur les ambiguïtés, de ne pas nous donner les codes de son œuvre, mais au contraire d'être toujours là où on n'attend pas. On voit les insultes, sale juif, sale arabe, vive la France. Je pense qu'il faut se laisser la liberté ou donner la liberté à chacun de l'interpréter en fonction de ce qu'il est.
L'œuvre a été peu montrée à Bruxelles, si ce n'est peut-être une rétrospective au musée du Botanique.
Il y a une grande rétrospective une année après la mort de Stefan Mandelbaum, en 1988, au Botanique, en effet. Et
dont Didier de Villiers était commissaire.
Absolument. Et après, force est de constater que l'œuvre a été très peu montrée. Le Musée juif de Belgique est en fait le seul musée belge qui possède des œuvres de Stefan Mandelbaum. C'est assez étonnant parce que si s'intéresse à qui étaient les collectionneurs qui ont permis de monter cette exposition au Musée juif de Belgique, on s'aperçoit qu'il y a d'une part l'entourage proche de Mandelbaum, les amis qu'il fréquentait à l'époque et qui ont gardé ses œuvres, auxquelles ils étaient parfois extrêmement attachés, avec une charge émotionnelle extrêmement forte. D'une part, on a donc cet entourage proche, et d'autre part, on a les plus grands collectionneurs, un Marin Karmitz ou un Antoine de Galbert à Paris. Je pense que c'est intéressant dans l'histoire de l'œuvre de Stefan Mandelbaum de se rendre compte qu'en fait c'est des œils extrêmement avertis qui ont acheté ce travail, non pas dans une espèce d'espoir de spéculation, mais simplement parce que cette œuvre puissante qui s'entoure finalement de modèles extrêmement forts crée à son tour une poétique presque aussi puissante que celle des modèles de Stefan Mandelbaum. Je pense que c'est une œuvre qui dérange, c'est une œuvre dont encore aujourd'hui on ne sort pas totalement indemne.
C'est une conjonction de hasard et de raison, comment dire, liée à peut-être une évolution aussi du regard. Je suis à peu près de la même génération que Stéphane. Donc c'est vrai que
Anne Montfort.
On est aussi une génération qui pouvons regarder l'œuvre de Stéphane avec une familiarité que n'avaient pas forcément ceux qui faisaient des expositions il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas non plus de hasard dans la manière de choisir des artistes. Et c'est vrai que l'univers de Stéphane parle aussi peut-être différemment à une très nouvelle génération. Ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle est à la fois extrêmement inscrite dans les années 80. C'est difficile d'oublier les années 80 quand on regarde son travail. Mais que les sujets qu'il aborde et sa manière de les aborder est pour moi totalement contemporaine. Il a une pratique du dessin qui est aussi totalement contemporaine. Il ne va pas s'embarrasser de questions stylistiques, c'est-à-dire qu'il domine parfaitement sa pratique, il domine parfaitement une discipline, il sait ce qu'il veut faire, c'est un artiste au sens traditionnel du terme avec une... s'il y avait des artistes, pas au sens traditionnel du terme, mais c'est un artiste avec une éducation traditionnelle, et cette éducation traditionnelle fait qu'il a une totale liberté ensuite avec ce qu'il fait. Il ne va pas essayer de souscrire à telle ou telle chapelle, c'est pas le problème de Stefan Mandelbaum. Il n'essaye pas de faire un style, Stefan Mandelbaum.
J'ai dit, c'est une assez belle histoire maintenant... Bon, il y a évidemment ce rapport public-privé. Et moi qui ne suis pas dans le milieu stricto sensu, j'assiste pour la première fois à la construction d'une côte. Je vois un peu comment les choses fonctionnent, les allers-retours entre que ce soit Beaubourg ou le musée juif. Mais c'est plus à Beaubourg parce que c'est Paris et c'est là que les choses se passent. Et d'ailleurs qu'elles ont démarré pour ressortir Stéphane, puisque ça, c'est un petit galeriste d'ici les Molineaux qui s'est pris d'amour en voyant un travail de Stéphane chez Combaz. Combaz, qui n'a pas connu Stéphane, l'a découvert je ne sais comment et s'est épris de l'œuvre de Stéphane. Et donc ce galeriste est lui-même est devenu passionné et donc a commencé à remonter les filières et puis on s'est aperçu que de Galbert avait quand même déjà, depuis une vingtaine d'années, avait déjà des œuvres de Stéphane, donc de Galbert de la Maison Rouge, qui est fermée maintenant, mais qui est une des plus belles collections de France. Et puis Karmitz, qui est aussi une grande collection, CMI, enfin bon, voilà. Il y a tout ça, il y a Beaubourg, il y a les collectionneurs, il y a... C'est passionnant, ces choses-là. En même temps, tout à coup, ces cotes qui s'enflamme, enfin, c'est aberrant. Enfin, moi, ça me dépasse, mais je vois les choses. Et donc l'idée maintenant, c'est de... En fait, le galeriste en question, qui s'appelle Bruno Jean, chaque fois, il va d'étape en étape. Donc, il voulait Beaubourg. Bon, voilà, Beaubourg, ça a été fait. Maintenant, je pense qu'il vise Bâle et le MoMA. Voilà, il ne s'arrête pas en chemin, quoi. Il poursuit. Et je crois que ça l'amuse, pour le bien de tout le monde.
Une œuvre emblématique que nous avons devant nous, n'est-ce pas ?
Une œuvre absolument emblématique, c'est l'Empire des Sens. C'est typique de la manière dont Stefan Mandelbaum travaillait, c'est-à-dire en se laissant littéralement absorber par un ensemble de références culturelles qui l'entourent, des références culturelles qu'il va retravailler, qu'il va interpréter, qu'il va parfois citer nominalement dans les marges. Et évidemment, l'Empire des Sens, c'est ce fameux film à scandale des années 70 qui raconte une histoire presque triplement scandaleuse. C'est l'histoire d'une relation sexuelle entre une servante et son maître. Premier scandale. Deuxième scandale, c'est que c'est une histoire qui est racontée à partir d'un point de vue, du point de vue d'une femme, une femme dominatrice qui plus est. Et le troisième scandale que provoque l'Empire des Sens, c'est le fait que les images sont extrêmement raffinées, en contraste total avec la violence des émotions et des gestes habituellement, ou les pulsions habituellement réprimées qui sont montrées.
C'est des années qui sont complexes parce que c'est la première génération qui est élevée dans la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre. Relativement, c'est une génération extrêmement épargnée par ces phénomènes, qui vit finalement dans un contexte, même si les premières crises arrivent, mais un contexte économique relativement stable, et qui bénéficie certainement de conditions de vie au départ beaucoup plus enviables que celles de leurs parents. Mais c'est la violence qui va se créer est différente. Je dirais que c'est une génération où la question de savoir qui on est devient la question clé. La génération précédente pouvait s'identifier par rapport à un travail, une classe, même je dirais presque une classe sociale. Après, ça devient très compliqué. La problématique principale est de construire sa propre identité, pour beaucoup d'ailleurs.
N'oublions jamais que c'est une œuvre inachevée, très pleine et inachevée. Et ce n'est un paradoxe qu'en apparence.
Stéphane, en fait, son travail, c'est aussi ça. Cette recherche presque violente pour savoir qui il est. Il ajoute des prénoms à longueur de temps, il joue des rôles à longueur de temps, il change de masque à longueur de temps, mais il ne parle jamais que de lui-même.
Je me souviens avoir dit à Stéphane « Et si tu faisais des scènes familiales un peu plus tendres, moins de criminels nazis, moins de scènes de cul, tu dois certainement avoir tout un tas de photos familiales avec toi, tes frères et Pili, votre maman. » Et Stéphane m'a répondu « Oui, un jour, pourquoi pas. Un jour peut-être. Mais c'est encore trop tôt. Pas maintenant, non. Pas maintenant. »
Quand on regarde Annie putain juive, elle est traite Stéphane. Quand il se représente à côté de son grand-père, il a les traits de son grand-père. Quand on voit le portrait de Pierre Goldman, Pierre Goldman a quasiment les traits d'Arié. Il y a toujours ce mélange, en fait, cette façon d'essayer de montrer en superposant les images ou en transformant l'image par un biais qui est pas si loin d'ailleurs. Le Bacon, c'est cette manière de détourner une image en faisant quelque chose d'autre, de parler aussi de ses propres rapports avec lui-même, avec sa famille, avec l'époque dans laquelle on vit.
Et pour finir, un aveu et un ultime remerciement. J'ai vendu un dessin de Stéphane pour une somme équivalente à 5 fois mon salaire mensuel. Ce fric recouvre à mes yeux une importance magistrale. Je me raconte cette entourloupe du destin de façon un peu niaise, mais à mon âge, on n'a plus peur du ridicule, ça va de soi. Ce fric qui tombe dans mon escarcelle, cet argent tombé du ciel, c'est uniquement à lui que je le dois. Et donc, par-delà l'au-delà, je dis merci Stéphane.
Au Musée juif de Belgique, jusqu'au 22 septembre, Stefan Mandelbaum, avec Pascal Aladef, Bruno Benvido, Anne Montfort, Gérard Préchoff et Antonio Moyano. Le musée juif se situe au 21 rue des Minimes à Mines-Bruxelles.
Quand vous regardez ces portraits, par exemple, et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est que c'est à la fois une synthèse extrêmement personnelle de différentes influences, un regard qui est un regard d'un jeune artiste sur lui-même, et pour les Français, c'est très belge. Je tiens à le dire.
Stefan Mandelbaum, par Thierry Junico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
On retrouve à la fois la truculence qu'on aurait pu s'attendre à un moment donné dans ce qu'on appelle largement la peinture flamande. On retrouve des influences qui font penser à la ligne claire et à la bande dessinée belge, parce qu'il a cette efficacité du trait qu'on a peu souvent. Il y a une anecdote, il avait raconté à sa mère que quand il avait fait ce dessin, en fait, il s'était inspiré d'une petite vignette de Tintin dans le Crabe aux pinces d'or, où le capitaine Haddock l'imagine avec le cou sortant de la bouteille.